Chers amis, Hachem Alechon, Tichiou, les Orechemim, Tobim, Shanim, Nehemi. En ce jour de Tou Bishvat, nous allons dire quelques Hidushim, les Chvod Ayom. Yeratzon, Shayom, Azé, Yeyom, Shikulo, Tov. Et je nous bêchez, Madonna, Yossé, Shamay, Barret. Donc la Mishnah nous dit, la première Mishnah de Maseret Rosh Hashanah, qu'il y a quatre jours dans l'année qui sont considéré comme étant des débuts d'année. Rosh Hashanah. Arba Rosh Hashanim Rem. Et la Mishnah décide donc Rosh Hashanah, la Shanim, c'est Rosh Hashanah du premier Tishrei. Rosh Hashanah des rois pour écrire les contrats, c'est Rosh Hashanah, c'est premier Nissan. Et la Mishnah dit que le jour. Le premier Shvat, c'est Rosh Hashanah, selon Beit Shammai, Rosh Hashanah la Ilan. Et selon Beit Hillel, c'est le 15. Donc, il y a ici une interrogation que soulèvent les Mefarshim. Il dit pourquoi tous les autres jours sont marqués au pluriel, Rosh Hashanah la Shanim, Rosh Hashanah la Mlachim, Bechoulé, et là, pour Rosh Hashanah, l'Aïlan, c'est marqué l'Aïlan au singulier. Donc ça, c'est la première question qui se pose. Et de plus, il y a une autre question qui est sous-jacente. C'est pourquoi la Mishnah a dit Arba Rosh Hashanim, hein? Et en vérité, selon la Halakha, il n'y a que trois, puisque il est dit Rosh Hashanim. Ce sont des jours qui sont en vérité le début du mois, au début d'un mois. C'est le sens de la phrase Rosh Hashanim, que c'est marqué Rosh Hashanah, c'est le début du mois. Ça ne peut pas, il n'est pas concevable de dire qu'au milieu du mois, on compte Rosh Hashanah. On attribue à ce jour le nom de Rosh Hashanah. Alors, en fait, il y en a trois. Et après la Mishnah, elle dit, Behad Bishvat Rosh Hashanah, Lailan, Kedivre, Beit Shammai, ou Beit Hillel, Hamisha Asarbo. Donc, il y a une petite nuance. Donc, c'est uniquement selon l'avis de, a priori, selon l'avis de Beit Shammai. Et non pas une règle générale. Alors, la Mishnah a voulu indiquer ce concept des quatre, uniquement pour inclure Beit Shammai dans cette idée-là. Donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le quatrième Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh Elul, qui est considéré comme étant Rosh Hashanah de Maaser Behema. Et selon Rabbi Eliezer, Donc, selon Tanakama, c'est Rosh Chodesh Elul, et selon les autres avis, c'est Rosh Chodesh Tishrei. Donc, selon cette version, là aussi, il n'y aurait que deux, puisque Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah de premier Tishrei, il serait aussi Rosh Hashanah le Maaser Behema. Donc, la question est pourquoi on a marqué 4. Donc, c'est ça l'idée. Alors, et l'autre point de réflexion, c'est pourquoi il est marqué au singulier. Alors, à ce propos, quelle est la nafkamina, quelle est l'application de cette idée pour nous de Rosh Hashanah Laïlan? Mais ce n'est pas Rosh Hashanah la perote, les perotes à Laïlan, puisque Nidonim, Béchavot, Nidonim, Alperot, Aïlan, la Mishnah va dire plus loin. Donc, il ne s'agit pas des fruits de l'arbre, il s'agit uniquement de l'arbre. À quoi ça correspond? Alors, les Mefarshim, sur place, expliquent, et la Gemara le dira plus loin, que si on plante un arbre à tout Bishvat, à tout Béav, donc ça, c'est-à-dire quand nous sommes 45 jours avant Rosh Hashanah, donc quand arrive Rosh Hashanah, on compte un an. C'est considéré que l'on a planté là pendant déjà un an. Et après, ils viennent 2 ans après, donc ça fait 3 ans. Donc à partir de là, pendant les trois premières années, il est interdit de manger les fruits qui poussent, puisque c'est hors là. Et la quatrième année, il faut les monter, un état et réveil, il faut les monter et les manger au Yerushalayim. Donc, comment on compte ces quatre ans-là? Alors, c'est pas du jour où on a planté jusqu'au jour que, qu'on compte trois ans pleins jusqu'au du jour où on a planté. Alors, c'est ainsi. Si on a planté 30 jours avant, donc il faut 15 jours pour que les racines prennent. Donc, c'est ce que la Gemara dit. Donc, c'est pour ça qu'on a compté 45 jours. Quand arrive Rosh Hashanah, c'est considéré un an. Puis viennent deux années consécutives entières. Donc, ça fait 3 ans. Considéré 3 ans, mais malgré tout, il faut attendre jusqu'à Tou Bishvat pour que les 3 ans soient révolus. Donc, on ne fera pas les 3 ans, considérer 3 ans à Rosh Hashanah de la troisième année, mais à Tou Bishvat. Donc, à peu près, on a gagné 6 mois. Ça, c'est l'idée, c'est la pratique à la Chalema Asé. C'est en ça qu'il y a en ce jour quelque chose d'effectif dans la halakha. Mais non, le Maguen Avraham ramène que dans certaines communautés en Europe, on avait l'habitude en ce jour de manger des fruits. Alors que le Shulchan Aruch dit que ce jour-là, on ne fait pas Tahanoun. Alors ça se propose, il ramène cette habitude. Puis, les années passant, le minhag s'est instauré. Et après, les Mkoubalim du 17e et du 18e ont instauré le seder de Tou Bishvat. Et ils en ont fait une véritable institution. Et le minhag qui est pratiqué avec une table dressée, avec de nombreux fruits, etc., vient de là. Sinon, apparemment, on mangeait quelques fruits, on marquait le coup en mangeant quelques fruits. Alors, quelle est l'idée du Ilan? Quel est le message qui a évolué, en fait, la pratique qui a évolué au cours des générations? Alors, il semble, de manière certaine, que c'est après que cette évolution est due au fait que après, un siècle après l'expulsion d'Espagne, les Juifs se sont rapprochés d'Eretz Israël. Et commencé les Mkoubaïm se sont installés à Tzfat, etc. Donc il y a eu une approche, on s'est rapproché d'Eretz Israël et beaucoup des exilés sont venus s'installer en Eretz Israël. Donc il y a un rapport au renouveau de la terre d'Israël. Alors les Mkoubaïm sont venus et ont dit qu'il faut être metaken, donc l'exil, la dispersion, et le fait que pendant des siècles, la terre d'Israël a été délaissée, s'est desséchée, elle s'est repliée sur elle-même, tout ça, ça participe du tikkun. Donc il faut réparer cela. Donc en hiver, les arbres sont pratiquement nus, les arbres fruitiers n'ont pas de feuilles, ils n'ont pas de fleurs, il n'y a pas de fruits. Et c'est à ce moment-là donc, que Tou Bishvat va marquer, va déclencher, va être le début du renouveau. Alors c'est pour ça que Chachamim nous disent que à Tou Bishvat, Rov Gishmi Hashana Avru, donc la majorité des pluies de l'année sont passées, donc les pluies bénéfiques qui permettent à la verdure et de se renouveler, sont passés, et qu'à partir de là, la sève monte dans les troncs et dans les branches. Donc il y a ici un véritable renouveau. Et nous sommes pratiquement un mois et demi de Rosh Chodesh Nissan, et c'est en Rosh Chodesh Nissan qu'il y a la bracha que nous devons réciter, la bracha sur les arbres qui sont en fleurs. Donc c'est une préparation, donc il y a un concept de renouveau de la nature. Et de la même manière que la nature se renouvelle, donc il y a aussi chez nous, chez l'homme, dans la communauté, le peuple, en Israël, un renouveau. Donc c'est pas, nous ne sommes pas nous observons les arbres en hiver, ils sont dénudés. L'arbre ressemble à un squelette. Et tout d'un coup, les ossements desséchés se retrouvent la vie. On insuffle une nouvelle vie et c'est en cela qu'il est intéressant de remarquer que la mahloket entre Beit Shammai et Beit Hillel, est-ce que c'est le premier du mois? Bon, est-ce qu'on va faire Rosh Hashanah Laïlan le premier du mois ou le 15? Alors Beit Hillel, ils disent le 15 parce qu'à ce moment-là, c'est évident que le renouveau perpétuel, la disparition de la lune et son retour, elle est à nouveau visible, c'est Rosh Chodesh, et après elle grandit, et pour atteindre la pleine lune, une lune entière pendant le 15, en ce jour, c'est bien marqué qu'il y a une possibilité de quand bien même nous ne voyons pas cela, cela n'est pas apparent, mais il y a un renouveau qui se fait de manière voilée. Et nous devons en être conscients, et la lune, qui est en le jour de tout l'Ujat plein, elle indique cela. Elle nous renvoie à l'arbre qui est rachitique, où il n'y a rien, mais il se passe quelque chose. Il se renouvelle de manière voilée. Pour ne pas être apparent, le renouvellement se fait de manière cachée, de telle sorte que les forces qui voudraient empêcher ce renouvellement ne puissent agir parce qu'ils ne le voient, ils ne le voient pas. Il n'est pas apparent. Ne'elam, le mot ne'elam signifie que c'est voilé. De la même manière que le Shem Hashem, il est Echemi le'olam. Voici mon nom pour toujours. Le'olam pour toujours. Le mot le'olam est écrit le'elam. Il n'y a pas de vav. Ça signifie qu'il faut le voiler, les ne'elam, et ainsi on le prononce. Et c'est à cela que fait référence le ilan. Le mot ilan, il a valeur, nous disent nombre de mefarshim, que le mot ilan, il a une valeur numérique de 91. Et il fait référence au passage que nous venons de citer. Zeshemi le'olam, donc le Shem Havaya, la Gemara dit dans plusieurs endroits dans Kiddushin, Aïn Aleph, que le Shem Havaya, il s'écrit Yud Kevavke. Lo Keshem She'anin Nirtav, Anin Nikra. Je suis écrit, mon nom s'écrit Yud Kevavke, mais il ne se prononce pas Yud Kevavke, il se prononce Aleph, Dalet, Non Yud. Et c'est la conjugaison de ces deux Shemot, c'est la Kavana des Shemot. Quand on prononce Ado, mais Ado Shem, mais quand il est écrit Yud Kevavke. Donc il faut conjuguer les deux Shemot dans la Kavanade quand on prononce le nom. Et celui, la Gemara à ce sujet, elle dit Gadol Aone Amen Meterme Minam Varer, parce que c'est ça la Kavanade quand on répond Amen. Quand on répond Amen, l'intention est d'équilibrer, de lier le Shem tel qu'il est écrit et le Shem tel qu'il est prononcé. C'est pour ça que dans les Sidorim, on va trouver juste derrière le Shem, au milieu de la bracha, Yud Aleph, Ke Dalet, Vav Nun, Ke Yud, 8 lettres qui composent et qui sont la composition des deux Shemot. Et ces deux et ces 8 lettres sont la source de toute la bracha. C'est pour ça qu'il est marqué Gadol Aone Amen Yoter Menam Varer, parce que celui qui répond Amen avec cette intention-là, il donne une validité au Shem Havaya tel qu'il est prononcé, tel qu'il est écrit. Et le Zohar, dans Sifra Detsinyota, insiste énormément sur ça, que la source des brachot, là, le réservoir des brachot, c'est le Shem Adanut. Comme il est dit, Hashem Bechal Kocho, Asmi Panav Kola Ares. Hashem se dévoile dans le Echal, dans son palais de sainteté. C'est là où résident les brachot. Et donc, quand on répond Amen à la bracha avec cette intention, on fait jaillir, on ouvre les vannes du réservoir de bénédiction pour que ça se répande sur terre. Et c'est à cela que fait référence le mot Ilan. Le mot Ilan, valeur numérique de Amen, 91, il associe, il conjugue le Shem Havaya tel qu'il est écrit et le Shem Adanut tel qu'il est prononcé. Alors comment ça se passe? L'arbre ressemble à l'homme. L'arbre a les racines profondément enfoncées dans la terre, donc il est dans la matérialité, mais il s'élève et son sommet, sa cime peut atteindre les cieux. Et il ressemble à l'homme. L'homme, il est fait de ces deux aspects, l'aspect physique, matériel du corps qui est lié à la terre, et l'aspect intellectuel. Le sechel, il peut s'évader et atteindre et gratter les cieux, atteindre les cieux et avoir des pensées spirituelles de éminentes et nobles, extrêmement élevées. Donc il conjugue les deux. Et l'idée, c'est que c'est la conjugaison des deux. Le monde, l'homme est attaché par ses pieds, il est posé sur terre, il ressemble à l'arbre qui tire ses énergies de la matière, mais sans influence, sans l'influence du soleil, de la pluie qui vient de la partie supérieure des cieux, alors aucun fruit ne peut, la vie ne peut pas se produire, aucune vie n'est possible en ce monde. Donc l'arbre, il conjugue ces deux éléments et pour donner des fruits. Et c'est en cela qu'il ressemble, que l'homme ressemble à l'arbre. Donc cet arbre-là, il est l'exemple que nous devons suivre en ce jour de Tu Bishvat pour nous attacher, pour saisir la matérialité qui nous est, dans laquelle nous vivons, qui nous est octroyée, pour lui donner, la transformer, lui donner une dimension spirituelle pour aller de l'avant, faire des fruits. Et à ce propos, la Gemara, dans Maseret Ta'anit, elle rapporte l'histoire de ce monsieur qui a traversé le désert. Alors, il traversait le désert et il est arrivé à une oasis. Et là, il se reposait à trouver des arbres, il a trouvé un ruisseau, il a trouvé de l'ombre, il a trouvé de quoi se nourrir, de boire, se reposer, se rafraîchir. Reprend des forces. Et au moment de quitter le lieu, alors il dit, Ilan, Ilan, bame avarechecha. Alors, arbre, comment pourrais-je te bénir? Que te manque-t-il? Alors il dit, perotecha, metukot. Tes fruits sont parfaits et sont doux. Sont parfaits. L'ombre est parfaite aussi. Il y a de l'ombre. Et l'eau, il y a de l'eau. Donc il y a tout ce dont tu as besoin. Donc celui qui arrive là, il lui manquera rien. Alors quel bracha je pourrais te faire? Alors il dit, Yiratzon, bame avarecha. Donc il ne sait pas quel bracha lui faire. Comment le remercier? Alors Yiratzon, shekon netiot shitom imcha yukamocha. Yiratzon, que tous les fruits, toutes les plantations qu'on fera à partir de toi, ils te ressembleront parfaitement. Et ça, ce Ilan-là, c'est Adam, qui a Adam et Sassadé. Un homme a les qualités. Il donne, il procure aux autres du bien, qui est parfait, qui est doux, qui est agréable. S'il donne à boire, il donne donc la chokhma. Il protège, il donne de l'ombre. Il procure aux autres. Il est là, l'homme, par essence, il est là pour procurer aux autres, pour faire. Au sein de sa famille et au-delà. Donc s'il fait des actions parfaites, avec une intention parfaite, et que ceux qui en jouissent sont satisfaits, alors il ratsonne que tout ce qu'on plantera de lui, donc si ses actions sont parfaites, dans la volonté, dans la pensée, qu'il a des vertus parfaites qu'il transmet, et qu'il partage avec les autres, et qu'il donne, il fait du bien autour de lui, il ratsonne que tout ce qui sortira de lui, lui sera parfaitement ressemblant. Il ne manquera rien à ses enfants. Donc les actions, c'est les pérotes. Les pérotes qu'il donnera devront être à son image. Ça c'est l'idée, ça c'est le concept que la sève monte dans les arbres. Donc il y a ici une idée de se recharger d'énergie nouvelle. Nous sommes à la fin, presque à la fin de l'hiver. Le mois de Hadar est au bout, là, on le voit parvenir. Et Hadar, c'est la Géoula de Pourim qui est collée à la Géoula de Pessah. Donc c'est la Géoula, c'est la notion de s'affranchir, la notion d'affranchissement des pratiques, des habitudes, des postures, de tout ce que nous avons, des instincts, la routine, sortir de la routine et se libérer de l'enfermement des habitudes et trouver des énergies nouvelles continuellement renouvelées. Ça, c'est l'idée essentielle de Tu Bishvat. Alors, par rapport aux fruits, il y a les Mkoubalim, donc, nous ont invités à réfléchir sur les 30 fruits. Donc, les Mkoubalim nous disent qu'il faut mettre 30 fruits sur la table. Il y a trois catégories de fruits. Les fruits, parce que le monde de la réparation, il se situe à trois niveaux. Il y a quatre niveaux dans la création. Nous considérons quatre niveaux. Donc le monde de la Atzilut, Olam Atzilut, donc c'est le monde de l'émanation qui est entièrement bon. Et là-bas, c'est le Olam Yahud Agamour. Donc il n'y a pas de place pour ce qui serait négatif. Mais en dessous, le monde, il y a trois mondes. Bria, Yetira, Ve'asia. Donc ces trois mondes, plus ou moins, il y a une part négative qu'il faut éliminer. Plus on est haut et moins cette part est importante, mais plus on descend dans le Olam Asya, donc le monde de la création, le monde de la transformation et le monde de l'action. Plus le monde, les Olamot descendent vers la matière et plus la part de ce qui est négatif est grande. Donc ces trois mondes-là sont symbolisés par trois catégories de fruits. Alors la première catégorie, ce sont les fruits où pratiquement tout se consomme, comme les pommes, les figues, les raisins, on pourrait tout consommer. Puis, donc c'est-à-dire que le mauvais, il est très très limité. Le bon est dominant de manière pratiquement totale. Donc c'est selon l'âme à Bria. Donc il est facile d'éliminer les pépins et de les enlever. Puis vient le monde où il y a beaucoup, une emprise du négatif à une emprise beaucoup plus grande. C'est le monde où les fruits, où il y a un noyau à l'intérieur. Donc les fruits ont un noyau qui n'est pas consommable, donc c'est la partie négative. Cependant, elle est maîtrisée, le concept du noyau, la chair, le bon, enveloppe le mauvais et le maîtrise. Il ne le laisse pas se développer plus qu'il ne faut. Donc il y a une maîtrise de ce qui est négatif. C'est le Olam HaYetzira. Et puis viennent, en dernière catégorie, les fruits où c'est l'inverse, où le mauvais enveloppe et domine les fruits à coque et domine le bon. Les fruits à coque, les noix, tout ce qui a une enveloppe qui est pas consommable, de laquelle on peut rien faire, qui est totalement négative, qui enveloppe le fruit qui est le bon. Donc c'est le tikkun, il doit se faire à ces trois niveaux-là. De telle sorte, alors, ils mettent 10 fruits sur la table à chaque fois, et ils sont mechavnim pour chaque fruit. À chaque fruit correspond une madriga. À chaque fruit correspond un concept spirituel. Et au fur et à mesure qu'on mange, on fait les brachot, on répare. On participe de la réparation de ces mondes. C'est le sens même de l'avodat Hashem, c'est de réparer, se réparer soi-même, acquérir les qualités, les midot tovot, les vertus, réparer, éliminer ses défauts, etc. C'est ça le sens de la réparation. À travers Kiyom Torah ou Mitzvot, on doit parvenir à s'améliorer en tant qu'être humain et s'améliorer dans la Avodat Hashem. Donc la relation verticale et horizontale se conjugue. Donc dans les deux sens, dans les deux dimensions, il faut s'améliorer. C'est ça le sens véritable du Olam à Tikkun. Éliminer ce qui est négatif. Adam Harishon était devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Tadatovara. Donc il ne devait pas, tout son travail consistait à éliminer le concept du négatif. S'il s'appelle Etzadatovara, il y a du tov et il y a du ra. Alors il fallait cibler, déterminer, circonscrire ce qui est négatif, et de lui-même il s'élimine. Et s'il élimine, donc l'arbre il devient Etzahaim. Donc ça se transforme en un arbre de vie, puisqu'il n'y a que du bon. Et le bon, c'est la vie. Et c'est ça la Avodat Hashem. Donc il y a, après la Het Adam Harishon, il n'y a rien dans ce monde qui est totalement bon. Il y a toujours un mélange de négatif. Donc la Avodat Hashem, pourquoi mange-t-on? La Avodat de Achila, le travail que l'homme doit effectuer en mangeant pour obtenir sa nourriture, il faut qu'il laboure, qu'il travaille, qu'il transforme la matière, donc il élimine le mauvais. Après, quand ça pousse, il doit battre le blé, il doit éliminer les écorces, etc. Tout un travail de tri. Et il doit travailler, il doit cuire ce qui est son alimentation, il doit la transformer, la rendre apte à être consommée. Donc c'est tout un travail de avoda, c'est un véritable avoda, ça. C'est parallèle au travail que l'homme doit faire sur lui-même. Après, il doit le manger. Alors, manger, c'est un travail extraordinaire, puisqu'il doit ouvrir le fait de devoir mâcher, de devoir digérer, etc., écraser de sa bouche. Ça aussi, ça participe du fait qu'il faut faire jaillir les énergies positives qui se trouvent dans les aliments pour... Ce sont elles, ces énergies-là, qui donnent le goût particulier de chaque aliment. Et c'est avec ces énergies-là, ces orotes qui donnent le goût que la neshama se nourrit. Et le corps se nourrit de la matière de qu'il consomme. Et après, il faut encore éliminer. Donc c'est une avoda pour faire jaillir les lumières. Et c'est ça le véritable travail de l'Imouda Torah, ça ressemble exactement au travail du Limouda Torah. Quand on étudie dans la Gemara, elle a appelé Bam Chashakim ou Shivani, le Talmud Babli est qualifié d'obscurité. Donc il faut travailler, éliminer ce qui est négatif pour trouver. Alors, il y a Tamé et Taor. Il y a deux facettes. Il y a Moutar et Assour. Donc on voit qu'il y a deux, il y a cachère et non cachère, etc. Donc il faut éliminer ce qui est négatif pour se saisir de ce qui est positif et arriver à l'alakha. Donc l'alakha, c'est le birour. Et ça ressemble parfaitement à la avoda de manger. Et c'est pour ça, d'ailleurs, nous disons dans la bracha de Birkat HaTorah, après la deuxième bracha, on dit Baruch Atah Asher Kidshanu Al Divrei Torah, Betivanu Al Divrei Torah. Et après on y va, deuxième, Ravea Revna Hashem Eloheinu Al Divrei Torah Tra Befinu. Rend agréable à notre bouche les Divrei Torah. Et le mot Vea Revna, c'est Befinu, c'est-à-dire c'est comme si on a un bon goût devant, dans la bouche. Donc ça, c'est véritablement comparé à l'alimentation, en fait, de plaisir de la table. L'étude de la Torah est du même ordre. D'ailleurs, Rashi, dans la parasha de la semaine prochaine, il dit Vele Amishvatim Asher Tassim Bifneim. Rashi ramène un midrash qui dit que Jmochou dit à Moshe, ne pense pas. Ça veut dire quoi, Tassim Bifneim? Tu poses devant eux la halakha. Et il doit leur expliquer de telle sorte que Shulchan Aruch Lifnei Aorchim. C'est-à-dire qu'il doit placer les aliments, le goût, disposer la halakha comme on disposerait des mets devant des assiettes et du manger devant les convives qui c'est tellement agréable qu'on a tout de suite envie de manger. Donc on compare l'étude, le goût de l'étude avec le goût du manger. C'est exactement ça. Ce sont deux avodot qui sont identiques, dans deux ordres, un physique et l'autre intellectuel. Mais ça se complète. Ce sont les deux niveaux, les deux sont considérés. La Torah est appelée un arbre et le manger vient ici, nous sommes à Toubichvat. C'est l'arbre, le ilan, mais en fait c'est l'homme qui est le ilan. Et l'homme doit, au quotidien, sanctifier la matérialité, sanctifier son quotidien, en introduisant le yud kevav ketel qui est écrit dans le olam de la matérialité qui est symbolisé par le shem tel que nous le prononçons, alef dalet nun yud. Il ressemble qu'en ce jour, la sève monte, quelque chose qui renouvelle les énergies et que nous puissions nous affranchir de toutes les contingences et les emprisonnements de la matérialité pour sanctifier notre quotidien et déclencher, que la Géoula se déclenche et s'accélère. Bimera Bemenu. Baruch Adonai Le'olam. Amen et Amen.